Bonjour. Dans mon dernier message de dimanche passé, oh là là, ça a réveillé toutes sortes de personnes très opposées à l'évangile de Jésus-Christ et qui se disent quand même croyants. Mais il y a tellement, vous savez, il y a tellement de choses qui traînent dans les églises et qui sont erronées. J'ai été obligé d'effacer des dizaines de commentaires blasphématoires carrément sur ma page Facebook parce que c'était trop. C'est incroyable ce que beaucoup de personnes acceptent comme vrai simplement parce que leurs conducteurs religieux disent. Et ils vont pas contrôler par eux-mêmes, ils vont pas vérifier par eux-mêmes dans la Bible si ce qu'on leur raconte est vrai. Le plus grand problème qui a soulevé l'indignation, c'est que j'ai dit que des faux dieux, des démons, se cachent derrière les statues. Ah! Derrière les statues devant lesquelles les gens se prosternent pour les prier. Tout de suite, ça a été le scandale. Parce que la maman de Jésus a été citée. J'ai dit que se prosterner devant une statue de Marie, ça n'est pas bien. On pense toujours, là, les idoles, c'est des trucs pour les pays lointains, le vaudou, je sais pas quoi. Non. Alors, j'attaque pas la maman de Jésus, pas du tout. Je la respecte infiniment, elle est bien heureuse. J'enseigne seulement ce que la Bible enseigne et je ne tiens pas compte des traditions, des croyances et des fables qui se sont ajoutées et qui tournent autour de Marie, la maman de Jésus, qui pendant les siècles, ils en ont rajouté tellement. La première chose à savoir, c'est que Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. La Bible mentionne que Jésus avait des frères et des sœurs. Mais, excusez-moi, mais les catholiques prétendent que les versets qui parlent des frères et des sœurs de Jésus font référence à des cousins ou à des disciples de Jésus. Écoutez, ils disent ça de toute bonne foi, mais écoutez bien. On va lire Jean chapitre 7, parce qu'il faut quand même, si on connaît Jésus, si on connaît Marie, c'est grâce à la Bible. Alors, Jean chapitre 7, versets 3 et 5. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va-t'en en Judée pour que tes disciples, voyez, donc il y avait les frères de Jésus et puis il y avait les disciples, afin que pour que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, ces miracles, manifeste-toi au monde. Et la Bible continue en disant. En effet, même ses frères ne mettaient pas leur foi en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ce texte démontre que les frères de Jésus, cités ici, n'étaient pas ses disciples puisqu'ils ne croyaient pas en lui. Vous voyez, on élimine ça. Bien sûr que Jésus faisait souvent référence à ses disciples en les appelant ses frères. Mais ici, dans ce texte, il est question de frères qui n'étaient pas des disciples. On va lire Matthieu chapitre 12, versets 47 à 47 à 50. Écoutez bien. Je pense que c'est quand même quelque chose de très utile. Il faut savoir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Matthieu 12, 47 à 50. Lorsque un esprit impur est sorti d'un être humain, il passe par des lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Alors il s'en va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui, ils entrent là et s'installent. Et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Là, il y a une référence entre la personne physique et la personne spirituelle de Jésus. Jésus dit que quand un mauvais esprit sort, il sort d'une personne et il revient sept fois pire. Dans Matthieu 13, c'est ce qui s'est passé dans les églises. Les églises ont été nettoyées de toutes les vieilles idoles qui traînaient en Grèce, à Rome, en Gaule et partout. Parce que l'évangile a été prêché, mais quand les gens sont redevenus charnels, ils ont adopté de nouveau les vieilles idoles. Dans Matthieu 13, 54-56, il est dit... On va lire déjà 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, il vint dans son pays, dans son bled, dans son village, et se mit à enseigner dans leur synagogue. Ébahi, les gens se demandaient, mais d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit, on ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Les citoyens du village, les habitants du village qui avaient vu Jésus grandir, le connaissaient bien, ils connaissaient Marie, ils connaissaient Joseph, ils connaissaient le nom des frères de Jésus, ils les citent, ils connaissaient aussi les sœurs donc de Jésus, enfin ils connaissaient la famille de Jésus. Si vous voulez une autre preuve, on peut regarder Matthieu chapitre 1, verset 24-25. Il cite la prophétie, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Alors, ça c'était l'ange qui a dit ça à Joseph pendant son sommeil. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Dans les anciennes Bibles, c'est marqué « Il ne connut pas sa femme ». Ben, ça règle tout. C'est-à-dire qu'il ne l'a connue pas, il n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie avant la naissance virginale de Jésus, avant la naissance de Jésus. Marie était vierge, elle a enfanté par miracle, mais après, c'est écrit, il ne l'a pas connue, il n'a pas eu de relation avec elle jusqu'à ce que Jésus naisse. Joseph a connu sa femme, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle jusqu'à la naissance de Jésus. Alors, dit d'une façon un petit peu plus crue, je vous dirais que Joseph n'est pas resté puceau tout au long de sa vie. connaître sa femme dans le vocable biblique, c'est avoir des relations sexuelles. Dans Genèse 4, 17, il est écrit, Genèse 4, verset 17, « Caïn eut des relations ou connut sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Enoch. » Au verset 25, l'homme, Adam, eut encore des relations avec sa femme, ou connut sa femme, elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth. Vous voyez, au lieu de suivre aveuglement les traditions d'une église, il faut consulter votre Bible et apprenez la vérité que la Bible enseigne et non pas ce que on vous raconte du haut de la chair. Alors la question est, pourquoi est-ce si important de croire que Jésus a eu des frères et des sœurs et que Marie n'est pas restée vierge toute sa vie? Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est à cause d'une autre fausse doctrine. Une doctrine qui dit que la mère de Jésus est une intercessrice, une intercesseuse, je ne sais pas comment on dit. Marie était la mère de Jésus. Elle était une femme vertueuse, mais le rôle de Marie a été grossièrement corrompu de façon absolument blasphématoire. La Bible ne mentionne nulle part son immaculée conception et le fait qu'elle intercède entre Dieu et nous. Voilà ce que signifie immaculée conception. Ça, c'est ce que l'Église catholique dit, c'est le texte même de la signification de Immaculée Conception. Voilà, je vous le lis. L'Immaculée Conception est un dogme catholique qui affirme que Marie, dont la conception se déroulait normalement, a été conçue sans le péché originel ou sa tache. C'est ce qui signifie immaculée, c'est-à-dire sans tache. Mais où est-ce qu'on trouve la preuve de cela? En tout cas, pas dans la Bible. Donc, on est chrétien parce qu'on connaît Jésus, Marie, et tout, Joseph, les apôtres, tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on connaît là, c'est par la Bible qu'on le connaît. C'est le livre de référence. Et nulle part dans la Bible, il nous est dit que Marie est née sans la tache du péché. Nulle part. C'est une invention. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est pourquoi je disais dans ma dernière prédication, dans l'Église, il y a des croyants, il y a des soi-disant croyants, et il y a des ignorants total. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le christianisme a été très rapidement corrompu par des histoires païennes, bien antérieures à la naissance de Jésus. Le culte de Marie a été une transposition du culte offert à des déesses païennes. Avant Jésus, avant Marie, il y avait des dieux partout, des faux dieux, des déesses. Et en fait, c'est vers l'an 405 que les images des saints et des martyrs ont fait leur apparition dans les églises. En l'an 405. Et ces statues ont commencé à être adorées. Le culte de la Vierge Marie a pris la place du culte qui était autrefois donné à Vénus et à Diane. Nulle part dans la Bible, on trouve que Marie a été conçue de façon immaculée, sans la tache du péché, ni qu'elle est restée vierge toute sa vie, et nous lisons exactement le contraire dans la Bible. Et nulle part dans la Bible, on ne voit que Marie est un intercesseur ou une intercesseuse entre Dieu et les hommes. Jamais on ne trouve ça, jamais. Cette fonction est réservée à Jésus seul et non à Marie. Ni au prêtre humain d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir un prêtre entre vous et Dieu. C'est Jésus. Jésus, la nuit où il a été livré, il a déclaré quelque chose, et on va le lire, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Voilà ce qu'il dit. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. C'est lui, c'est par lui. Et puis dans Jean 14, toujours versets 13 et 14, voilà ce qu'il dit, croyez en moi. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez à cause des œuvres même que je fais. En vérité, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Vous n'avez pas besoin de faire appel à sa maman, mais vous faites appel à Dieu le Père en prononçant le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus-Christ et non pas par le nom de Marie ou de Sainte Rita ou de je ne sais qui, mais c'est au nom de Jésus que nous prions notre Père Céleste. Quand Marie se réveillera à la résurrection, elle sera stupéfaite de voir comment le culte des déesses païennes lui ont été transposés. Maintenant, la Bible ne nous parle pas que de la mort, de l'ensevelissement de Jésus et de sa résurrection. Alors c'est vrai que Jésus est mort pour nous, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, mais l'évangile n'est pas que ça. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce que vous avez déjà posé la question, mais quel évangile, quelle bonne nouvelle Jésus a-t-il prêché pendant les 3 ans et demi avant sa crucifixion? Il ne pouvait pas prêcher le pardon des péchés à cause de la croix, puisqu'il n'était pas encore allé sur la croix. Alors c'était quoi la bonne nouvelle? Peu de gens comprennent le message, ou même le connaissent, ou même se posent simplement la question, alors qu'il est très clairement annoncé dans les Écritures. La plupart des chrétiens ne savent pas que dire au sujet du message de Jésus à l'humanité. On va lire Marc chapitre 1, verset 14. Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus vint en Galilée et il proclamait la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Changez radicalement, ou repentez-vous, et croyez à l'évangile. Et peu de chrétiens se rendent compte que la plupart des paraboles que Jésus a données sont des paraboles qui concernent le royaume. Il prêchait le royaume de Dieu. Regardons Marc chapitre 4, verset 30. Marc, verset 30. Il disait encore, donc Jésus, « À quoi comparerons-nous le règne ou le royaume de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? C'est comme un grain de moutarde, etc. etc. » Tout le temps, il parle, il annonce l'évangile du royaume. Le terme de royaume de Dieu se trouve 67 fois. Lisez Luc 4, 43. Luc 4, 43. On va le lire. Luc 4, 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pourquoi ? Pour annoncer le royaume de Dieu. Jésus dit qu'il est venu pour ça, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. Lisons Luc chapitre 8 et verset 1. Par la suite, il se mit à cheminer de ville en ville et de village en village. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle ou évangile. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. Il proclamait et annonçait l'évangile du règne de Dieu. Il prenait ça très au sérieux. La question, donc, c'est, c'est quoi précisément le royaume de Dieu que Jésus proclamait? Et en quoi cela nous concerne-t-il? Vous voyez, j'ai démontré par les Écritures certaines choses au sujet de Marie, et puis j'ai commencé à démystifier une chose que la plupart des chrétiens ignorent, c'est quoi ce message du royaume de Dieu? Alors, je ne vais pas être trop long, le vendredi en général, je suis court, et dimanche, Dieu voulant, eh bien, je vous enseignerai ces choses, et vous allez être très étonnés. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. J'espère que je ne vous ai pas fâché, choqué. C'est pas moi qui suis choquant, c'est la mauvaise compréhension de qui est Marie, c'est ça qui est choquant. Oui, vous les protestants, vous n'aimez pas Marie. Mais qui a dit ça? Nous aimons Marie. Sans Marie, Jésus ne serait pas né. C'était une femme merveilleuse, vertueuse, qui a obéi, qui s'est soumise, qui a pris des risques. Elle était fiancée à Joseph. Elle aurait pu être renvoyée par Joseph. Elle aurait pu être lapidée pour adultère ou fornication. Elle a été merveilleuse. Mais il y a eu aussi un moment où elle a douté de Jésus. Ah, est-ce que vous connaissez ça? Alors c'est un petit peu long, je vais m'arrêter là et je vais revenir dimanche au sujet de cette autre chose que les gens ignorent, au sujet de ce que Jésus prêchait quand il annonçait l'évangile du royaume. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.